Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Gameblog avec aujourd'hui notre nouvelle rubrique Mercredi Investigation présentée en exclusivité par Bernard Delaville. Plutôt par l'équipe de Gameblog. Et aujourd'hui, un thème de fond, le casual gaming. Et autour de notre table à repasser désormais célèbre, eh bien, je reçois Julo. Bonjour Julo, ça va bien ?
Oui, très bien mon cher
Julo. Angel qui sirote un bon vin d'un grand cru.
Exactement, et c'est pour ça que j'ai même pas envie de te répondre.
Très bien. Raon, qui tient très bien le micro.
Ouais.
Parfaitement. Caf.
Ça va, mais Raon, tu me prêtes le micro ?
Merci Raon.
Et notre ami, l'homme inaudible, qui du coup ne pourra pas nous réagir. Aujourd'hui, vous l'avez entendu dans notre petit générique d'intro, nous allons parler de la vague casual gaming qui vous touche directement ou indirectement, en tout cas qui ne peut laisser insensible tous les joueurs de la planète, quelle que soit votre console. C'est une véritable lame de fond qui est en train de saisir le jeu vidéo. Alors, pour commencer, eh bien, comme dans toutes les investigations qui se respectent, on va commencer par une définition. Alors, Raon, qu'est-ce que le casual gaming ?
Alors, le casual gaming, c'est bêtement des jeux avec une mécanique plus simple, une courbe de difficulté plus facile, plus accessible. Quoi, ouais. En fait. Donc, la complexité, la courbe de difficulté est plus faible.
Et le temps que tu passes à jouer aussi ?
Non, pas forcément, justement. C'est ça le truc, c'est que casual ne dit pas forcément que c'est pas des jeux addictifs, au contraire. Quoi.
Ah, bien au contraire.
Les Sims, par exemple. Voilà. Les Sims, c'est très casual et pourtant, les gens s'en servaient.
J'ai un exemple encore plus simple.
Quasiment comme fond d'écran.
J'ai encore un exemple beaucoup plus simple du jeu casual par excellence, c'est Tetris.
Voilà, c'est ça. Et ça, c'est important que tu soulignes ça parce que pour beaucoup de personnes aujourd'hui, le casual gaming, ça a 6 mois, 1 an d'existence, alors que absolument pas.
Pas
et puis,
du tout.
Il y a des jeux qui sont entre guillemets pas très connotés console, mais qui rentrent typiquement dans le cadre du casual gaming et qui sont ultra populaires. On a des titres à citer.
Ouais,
à
alors déjà, donc effectivement, comme tu disais, le casual gaming, ça n'a pas commencé avec la DS et la Wii, ça date bien avant ça. Et probablement le plus gros jeu casual qui soit, ça va être le solitaire sur Windows.
Ouais, le démineur aussi.
Le démineur, enfin tous les jeux Windows.
Numéro 1 de toutes les secrétaires de France et de Navarre. Ouais, et puis il y a aussi les jeux de cartes en ligne, ce genre de choses, parce que beaucoup de personnes oublient que le jeu vidéo, dans son sens très large du terme, c'est le jeu électronique, donc c'est tout ce qui est virtuel, et toutes les personnes qui jouent, ne serait-ce que sur leur téléphone portable, sont des joueurs de jeux vidéo.
Il y a beaucoup de personnes. Comment t'appelles ça, toi ?
C'est le Snake de Nokia.
Voilà. Exactement. Beaucoup de personnes ne se considèrent pas comme étant des joueurs, alors que finalement, ils passent chaque jour ou parfois par semaine.
Ouais, et puis on va rassurer tout le monde très très vite, hein, pour les gens qui veulent gagner de l'argent avec les jeux, ils sont tout de suite considérés comme des joueurs.
On est clairement d'accord. Justement, Raon, puisque tu parles d'argent, le marché du casual gaming, il est en véritable explosion. En tout cas, ça c'est clair. Ouais. C'est clair qu'il y a une ascension sur les dernières années. Maintenant, ça génère énormément d'argent.
On va dire en gros que avant 2002, ça n'existait pas trop. Ouais. Et puis
2004,
aujourd'hui, en 2004, c'est 600 millions de dollars. Ouais. Et ils projettent, la plupart des études qui parlent de ce marché-là projettent qu'en 2008, ça atteindra 2
milliards de dollars. 2 milliards
de dollars, c'est colossal. Pour les États-Unis,
ouais. Ouais, c'est colossal. On voit, et puis même, on le voit, effectivement, là, on parlait tout à l'heure de la Wii et de la DS, qui n'étaient pas les consoles officielles du casual gaming, en tout cas. Néanmoins, c'est vraiment des machines sur lesquelles on retrouve énormément de jeux dits casual. Et quelque part, c'est ça aussi qui fait la force de ces machines, puisqu'on voit que la DS et la Wii trustent vraiment les charts. Dans le monde entier, quels que soient les supports de machines, que ce soit console de salon ou console portable, il y a vraiment un impact du jeu casual.
Mais c'est surtout que Nintendo a réussi à capter ces gens qui jouent un peu au taf sur des sites web avec des jeux en flash, des trucs typiquement casual que nous on ignore, et ils ont réussi à sortir des jeux qui captent ces gens-là et qui leur font acheter des consoles. Quoi.
On a d'ailleurs quelques chiffres à vous citer. Par exemple, on a une enquête de Mediametrix qui reportait qu'en décembre 99, finalement c'est il n'y a pas si longtemps, hein, c'est il y a moins de 10 ans, en fait il y avait 54 millions de personnes qui avaient déjà joué à un jeu sur PC, dont 36,5 millions de personnes qui jouaient au solitaire. C'est quand même assez bluffant, ça veut dire que plus de la moitié des gens qui avaient touché à un jeu PC n'avaient finalement pas joué à un jeu comme nous on l'entend, nous les vrais gamers, mais plutôt le solitaire, le jeu de base, mais qui reste un jeu et qui est vraiment casual par excellence.
Oui, tout à fait. Et ce qui est vachement intéressant de voir aussi, c'est les conditions dans lesquelles ils jouent. Mm-hmm. Parce que souvent, ces gens-là jouent en fait au taf, pas forcément chez eux. Et on a une étude très récente qui a été menée par une boîte qui fait justement du jeu casual qui s'appelle PopCap Games, qui a mené une étude dont les résultats sont parus hier. qui dit en gros que la plupart des gens qui ont un boulot type bureau, tu vois, que ça soit secrétariat ou machin, enfin qui bossent dans un bureau, jouent à fond au taf. Et parmi les sondés, en fait, 24% de ces sondés-là jouent au boulot. Et 98% de ces mêmes gens jouent aussi de temps en temps un petit peu chez eux. Et ce qui est marrant à voir, c'est qu'en fait, les travailleurs de bureau jouent moins que leurs supérieurs, les cadres, qui jouent beaucoup plus. Donc 10% de plus, ils sont 35% dans les cadres à jouer au bureau.
Bah, de toute manière, on le sait, hein, plus on est haut placé, plus on gagne de l'argent. Et finalement, moins on fout quoi que ce soit. Donc plus on a de temps pour jouer.
C'est ça. Et alors, le pire de tout, c'est que en fait, quand même, les mecs, ils sont 14% à jouer pendant, par exemple, les réunions. Ou les conference calls.
C'est hallucinant quand même.
C'est quand même dingue.
D'où l'expression être payé à rien foutre.
Ouais, mais grave. C'est-à-dire que même quand il y a d'autres gens et qu'ils sont en train de bosser, ils sont censés être bosser, ils sont en conf call en réunion, les mecs ils jouent.
Alors je vais les défendre. Moi je connais quelqu'un qui avait des conference calls toutes les semaines.
Angel, pote des patrons.
Et non, c'était pas un patron. C'est quelqu'un avec qui on travaille quotidiennement presque, on va dire. Et donc il avait des conference calls. Au niveau mondial, enfin européen plutôt, et ils disaient, nous, côté français, comme on n'avait rien à dire, bah, on se regardait dans le blanc des yeux et puis on attendait que le temps passe. Tu vois, enfin voilà, c'était au téléphone, donc ils se regardaient comme ça. Et puis quand le tout arrivait, ici, non, en France, bah en France, rien de neuf.
Voilà. En France, il fait toujours pas beau, hein, très clairement.
Donc, au moins, ils jouaient pas.
C'est pas si étonnant que ça, quoi. Ouais, mais pas si. Mais sinon. Et sinon, alors le solitaire, c'était jusqu'à il y a pas très longtemps, ça l'est peut-être encore, le jeu le plus joué. Du monde.
Ouais, au monde.
Exact.
Voilà. Clairement. Et là, tout à l'heure, on parlait de Tetris. C'est l'un des jeux les plus vendus au monde. Parce que, bien évidemment, sans compte. On
ne parle pas que de la version aussi, Game Boy. C'est très difficile de savoir.
On compte des versions PC, on compte de toutes les adaptations qu'il y a. Si Alex Pajitnov avait eu vraiment les royalties dès le début du lancement de Tetris, il serait multimilliardaire.
Ouais, mais d'ailleurs, il y en a un qui est multimilliardaire. C'est le mec qui a signé Alex Pajitnov, en fait, qui a fait la Tetris Company et qui gère tous les droits de Tetris pour tous les autres jeux et qui les a vendus à Nintendo, etc.
Et toi, tu as vu ce fabuleux documentaire qui était passé sur la BBC.
Et que j'avais envoyé en lien
sur
ma chaîne
blog et qui a cartonné
et
qui d'ailleurs n'est plus du tout sur Google Vidéo.
Non, il l'a retiré. Mais donc c'était un documentaire fantastique qui était passé sur la BBC
sur
l'histoire de Tetris et en fait
c'est incroyable.
Et en fait tout le côté politique qu'il y avait dessus, parce qu'en fait au bout d'un moment Tetris c'est très politisé. C'était devenu un vrai problème national.
Et surtout en Russie.
Surtout en Russie et tout ça.
Parce que les mecs se sont dit qui a donné les droits.
La vidéo n'existe plus.
Elle est retirée. Et si je la retrouve. Non, attends, stop. J'ai un message à passer. Si vous l'avez sur le net,
n'hésitez pas à nous passer le lien, on le mettra.
Sinon, le docu était passé sur Planète aussi. Donc, parce que moi, je l'avais vu à la télé sur Planète par hasard.
Et en fait, moi, je voulais juste préciser un truc, c'est que Tetris, on en parle en casual gaming, et c'est l'exemple type du jeu qui peut être ultra hardcore, en fait. Puisque il y a des articles,
je pense qu'on peut en faire un nouveau podcast.
Non, mais justement, on revient. Il y a Raon qui veut souligner quelque chose, mais juste pour dire qu'on va revenir justement sur le côté addictif qui peut amener vers le hardcore gaming, quelque part.
C'est ça, effectivement, c'est très important. Ce dont toi tu parles, Kaf, en disant que Tetris peut être un jeu hardcore, ça n'empêche pas que la définition du jeu casual, c'est un jeu avec des principes simples, assimilables par tous, et des mécaniques faciles.
Et ma mère a fini Tetris avant moi, donc voilà, et là tout est dit.
Moi, c'est l'une des rares fois où effectivement, moi aussi, j'ai vu ma mère jouer, et la dernière fois où je l'ai vu jouer,
c'est. Bah, c'est vachement intéressant que vous parliez ça, parce que justement, dans la population, en fait, si on fait une analyse démographique des gens qui sont de la démographie des joueurs casual, la plus grosse. La plus grosse partie des joueurs sont des femmes.
Ouais. Alors justement, vraiment, là, on en arrive à un point qui est très important. On a situé un peu ce qu'était le casual gaming, justement pour briser un peu le coup à tout ce qu'on peut dire. On entend tout et n'importe quoi sur qui sont les joueurs du casual gaming. Justement, est-ce qu'on pourrait dresser un petit portrait robot du joueur?
Le joueur casual, et donc effectivement, ça peut être à la base n'importe qui. C'est le principe même du jeu casual, c'est-à-dire qu'il parle à tout le monde. Mais parmi les gens qui jouent d'une manière casual, qui se déclarent comme étant des casual gamers, qui n'ont pas forcément des machines chez eux, qui ne s'intéressent pas forcément à l'actualité du jeu vidéo, mais qui jouent de temps en temps, il y a les femmes de 35 à 50 ans. Ce qui est un petit peu étonnant quand même.
Ménagères.
Et voilà, la fameuse ménagère qu'on a peut-être un peu marre de TF1 et qui joue. Alors, elle joue pas, elle a pas forcément une console chez elle. Quoique maintenant.
Pas encore.
On va voir qu'avec Brain Training, il joue quand même pas mal. Mais c'est surtout des jeux web, des jeux flash. Elle va passer du temps à chercher des jeux et des puzzle games essentiellement sur le net.
Oui, Kev.
Moi, je confirme ça parce qu'une fois, j'ai vécu un peu la quatrième dimension dans le métro. Je m'installe dans la rame et là, je vois des ménagères de moins de 50 ans, hein, on va dire comme ça, qui sortent des DS, mais pas une, pas deux, cinq dans une seule rame de DS. Dans une seule rame de DS. Dans une seule rame de métro. Et là, je fais, mais tu sais, au début, elle sortait des pochettes, je me suis dit, c'est des iPods, normal. Et là, en fait, non, c'était des DS. Donc, je me suis levé, j'ai fait ma petite enquête. Et en fait, j'ai regardé à quoi elles jouaient. Et c'était des jeux de Sudoku et le Brain Training.
D'accord.
Et là, je dis, bravo Nintendo.
Ah non, mais ça, c'est très fort. Et d'ailleurs, c'est assez symptomatique de voir que là, il y a quelques mois, hein, c'était la fête des pères, la fête des mères, et que Nintendo a énormément communiqué là-dessus, campagne marketing axée là-dessus essentiellement, et même en termes d'image, hein, c'était vraiment des personnes, c'était des quinquagénaires.
Évidemment pas un hasard, hein, puisque on estime à l'heure actuelle, hein, au jour d'aujourd'hui, que le marché des joueurs casual, ça représente 200 millions de joueurs. Ce qui est juste énorme.
Et finalement, est-ce que ce marché-là, il n'est pas maintenant largement supérieur au marché des hardcore gamers ?
Mais sans commune mesure, c'est évident. Voilà, donc c'est normal, effectivement, c'est malin de la part de Nintendo d'essayer de s'y intéresser. Mais si le but du débat, c'est un petit peu de savoir est-ce que le jeu casual est mauvais pour nous, qui sommes des joueurs traditionnels, enfin traditionnels hardcore ou core, hein. On va dire, en gros, on fait trois distinctions dans la population des joueurs. Il y a les casual, il y a les core et il y a les hardcore.
Nintendo.
Mais j'ai l'impression qu'on parle de rap.
Vous ne le voyez pas, mais Angel esquisse un léger sourire.
J'ai l'impression qu'on parle de rap.
Que je partage.
Mais non, bon. Nintendo faisait une autre catégorie aussi, c'était les Lost Gamers. Ceux qui jouaient avant et qui tentent de récupérer, entre autres avec la Virtual Console.
Et les Found Gamers, non. Enfin,
non, mais c'est
n'importe
pas...
quoi là.
Non, mais ça, effectivement, c'est intéressant, c'est distinguo. Ça a été. Très marqué par exemple lors de la conférence de Nintendo à l'E3.
Ouais, mais pas seulement. On en parle beaucoup dans le milieu du développement. Entre développeurs, il y a quand même des associations qui existent au niveau mondial, genre l'IGDA par exemple. Les développeurs parlent beaucoup de ces problématiques de marché, de quelle cible ils veulent atteindre, comment le faire, machin, etc. Et donc, ça, c'est les trois, grosso modo, les trois grandes classes qu'on distingue.
Alors justement, on parlait là tout à l'heure, on dressait un petit portrait robot du joueur, du casual gamer. Justement, toujours, on a pas mal d'études qui ont été pondues à ce sujet. On voyait par exemple que certaines joueuses de plus de 40 ans passaient jusqu'à plus de 9 heures par semaine.
Ouais, plus que les hommes. Plus que les hommes.
Plus que les hommes. Voilà, c'était 6 heures pour les hommes, 9 heures pour les femmes sur un jeu vidéo, quel qu'il soit. Alors justement, bon, 9 heures pour un vrai hardcore gamer, c'est pas grand-chose.
C'est
même assez ridicule. Mais pour un joueur, on va dire, un joueur moyen, ça commence déjà à devenir une
Et même au-delà de ça, elle joue.
Voilà, elle joue. Alors justement, est-ce qu'on pourrait se poser la question, on va revenir tout à l'heure sur le potentiel risque de voir glisser un petit peu le marché du jeu vidéo vers... On n'espère pas hein, exclusivement vers le casual gaming, mais en tout cas de prendre de plus en plus de parts de marché sur les jeux traditionnels. Mais est-ce que ces joueurs qui découvrent le jeu vidéo avec le casual gaming ne peuvent pas à terme devenir, bon, probablement pas des hardcore gamers, mais des joueurs on va dire plus traditionnels qui s'essaieront à des jeux par exemple comme Zelda, Mario, qui ne sont pas du casual gaming aujourd'hui?
Enfin, pas exactement, mais ça reste à voir aussi. Après, on verra ce que donne...
Avec l'évolution. Voilà.
Mais alors là, par exemple, sur cette question-là, Julo et moi, on a un point de vue assez différent. Mm-hmm. C'est-à-dire que lui, ça lui fait un petit peu peur. Moi, je suis plutôt confiant.
Donc, alors, si tu veux commencer... Julo, qu'est-ce que t'en penses
Non, mais c'est simplement que le fait que ce soit ces jeux-là qui marchent, ces jeux-là qui ramènent plein de monde... Ces
jeux-là, de l'argent,
et
de
ces jeux-là qui font cartonner la Wii et la DS et que ça devient le modèle maintenant.
Non mais c'est simple, des jeux qui ne coûtent pas cher et qui rapportent énormément.
Voilà, c'est ça. Alors tu dis ça à un mec qui dirige une boîte de jeux vidéo, on lui dit voilà ça te coûte pas cher et tu vas en vendre plus. Ben, voilà. Alors le risque, moi ce que je vois, c'est qu'on ait une offre de jeux qui se résume on va dire, en très grande partie par du casual gaming et puis en mineure partie par des jeux pour nous quoi. Voilà.
Alors vraiment, toi, tu as une opinion assez différente.
Ça, c'est ce que soulève Julo comme risque. Et je pense que c'est effectivement un truc qui va se manifester dans les années à venir. C'est qu'effectivement, il y aura de plus en plus de jeux qui vont viser ce public-là. Mais je pense pas que ce soit forcément mauvais pour nous à terme, parce que ce sont de toute façon des joueurs qui seraient pas venus vers la Wii ou vers la DS ou vers n'importe quoi d'autre de casual.
On peut poser la question différemment. Ces joueurs-là, effectivement, ne seraient probablement pas venus. Mais est-ce que les éditeurs, qui finalement sont dans une logique mercantile, c'est de l'économie, et on peut les comprendre quelque part, eux ne vont pas rediriger un peu leur développement, comme le disait Julo. Et effectivement,
c'est exactement ce qu'ils font.
Et bah, justement, sur des jeux de plus en plus casuals, et du coup, moins d'offres pour les
alors,
les
même
gamers,
si c'est le cas, moi, ce que je vois...
pour les casuals.
Vas-y, Angèle.
Angèle, tu...
Non, c'était plus ou moins ça. Enfin... Moi, je me disais, alors si le casual permet de remplir les caisses et qu'après ces caisses servent à financer des projets plus, plus ambitieux et moins casual sur le coup sans faire du hardcore gaming, parce qu'on va pas, enfin il y a pas non plus, enfin il y a un juste milieu entre les deux, ce serait quand même une super chose. Maintenant, est-ce que ce sera le cas, c'est loin d'être gagné.
Ouais, Raon, tu veux réagir visiblement.
Ça, c'est déjà une possibilité. Ça me paraît un petit peu utopique de faire genre, on gagne plein de thunes et puis finalement, on va tout claquer comme des cons, faire des jeux qui coûtent super cher.
Par contre,
et c'est d'ailleurs un petit peu le discours de Nintendo. Enfin, après, ça, c'est un petit peu marketing aussi de la part de Nintendo. Mais je pense vraiment que, parmi tous ces nouveaux joueurs qu'il y a, que ce soit des seniors, les femmes ou autres, qui s'intéressent à des brain training et autres, beaucoup vont forcément, au bout d'un moment donné, prendre conscience de l'existence d'autres types de jeux, qui sont ceux que nous, on connaît depuis des années. Mmh. Et parmi ceux-là, certains vont s'y intéresser.
Mmh. Et là j'acquiesce. On pourra peut-être retrouver le même phénomène que dans la musique, par exemple. Le mec qui aime bien le rock et qui commence, je ne sais pas moi. Enfin, vraiment, le petit jeune qui écoute, qui commence par Nirvana et qui finit, en fin de compte, par écouter du Sonic Youth parce que son oreille s'est forgée, il veut aller... il veut aller plus loin.
Ça a l'air que t'es dû tes goûts comme n'importe quel produit culturel, t'es dû tes goûts, il a super raison. Et au bout d'un moment donné, donc tu as une porte d'entrée qui est le casual gaming. Et mine de rien, il faut qu'on se projette, c'est un petit peu difficile pour nous tous, mais qu'on se projette à l'époque, on a franchement au départ commencé à jouer avec les tout premiers jeux. Tu prends un Pong par exemple. En soi, c'est du casual gaming. Les règles sont super simples. Il n'y a pas 36 trucs à apprendre. Tout le monde peut jouer à Pong, quoi. C'est vraiment super facile. Et on était, nous, à l'époque, obligés de commencer par ça, parce qu'il n'y avait rien d'autre.
Ouais, et on retrouve quelque chose de très important dans le casual gaming, c'est le côté addictif. Parce que mine de rien,
exactement.
Les meilleurs jeux de casual gaming, ils ne le sont pas tous, hein, mais sont très bien conçus et sont très prenants. Des brain training, etc.
Exactement, parce qu'il ne faut pas non plus dire que le casual gaming, ce n'est pas non plus le diable. Il y a des jeux qui sont super, vraiment super, super bons. Quoi. Ouais. Brain training, comme tu dis, Nintendogs. Moi, je reviens souvent à Nintendogs, parce que c'est l'exemple type du casual gaming. Justement, comme disait Raon, dans sa définition, c'est effectivement un jeu avec des mécaniques très très simples, mais pas pour autant limitées.
Mais est-ce que aussi, Kaf, tu voulais dire quelque chose ?
Non, je dis même Nintendo, c'est un jeu hyper complexe par rapport aux jeux avec lesquels j'ai commencé quand y pense. Moi, la première console que j'ai eue vraiment chez moi, c'était une Vectrex. Astéroïde, c'était le jeu qui était dans la console. Ça s'appelait Minefield, je le dis pour les, pour les super ayatollahs qui vont sauter dessus.
Il était intégré directement.
Exactement. Et il était
avec
incroyable.
Avec le petit fond qu'il fallait rajouter devant l'écran en noir et blanc.
Que j'ai toujours.
discussion de hardcore gamer pur.
Non, mais voilà, mais ok, c'était un petit marché à l'époque. Enfin, bon, c'était quand même l'explosion du jeu vidéo, etc. La preuve, parce que c'était Milton Bradley, MB, qui s'y mettait, Puissance 4, la pub que vous voyez à tous les Noëls. Voilà, c'était cette boîte-là qui le faisait, MB.
Et à l'époque, les jeux coûtaient plus cher que maintenant.
Mais voilà,
je pense, parce que les
ça
jeux
coûtait
Vectrex,
une fortune.
Wow.
Sauf que moi, j'ai eu de la chance, c'est que la Vectrex, moi, j'avais pas compris pourquoi c'était pas cher à l'époque, c'est parce que la console s'arrêtait. Mais bon, ça, c'est une digression. Le truc, c'est simplement que Asteroid, c'était hyper simple. C'était très très difficile à haut niveau, mais c'était un jeu où les règles étaient assimilées, mais en 3 secondes. Et ça c'est un truc, effectivement, quand on va dire à un jeune de jouer à Bioshock, Bioshock, effectivement, il faut se mettre dedans, il faut comprendre l'univers, l'histoire, le machin, et c'est beaucoup plus compliqué.
Est-ce que ça recoupe pas un petit peu aussi une autre tendance, et une autre question très importante que le milieu du jeu vidéo doit se poser, c'est que finalement, l'âge moyen du joueur vieillit de plus en plus. Maintenant, il y a quelques années, on était sur de l'ado, maintenant on est plutôt sur du jeune adulte, on est sur du 25-30 ans.
Nous, dans l'ensemble.
Si, la cible moyenne sur Wii, sur DS, même, c'est encore cette cible-là.
Sur Wii et DS, c'est même carrément les seniors.
Voilà, c'est plus vieux. Et ces gens-là, finalement, ont quand même, mine de rien, beaucoup moins de temps à allouer à du divertissement, on va dire, jeux vidéo pur. Il y a du cinéma, il y a de la musique, il y a des sorties, il y a être avec ses amis, être avec ses enfants, quoi que ce soit, beaucoup de boulot.
Et ça
aussi.
Nique la télé en priorité,
voilà,
ce qui est très bien.
C'est ça, ouais. Oui, pour la première fois cette année, la télé, le temps passé devant la télé a baissé. Une première depuis la création
de la
télé.
De toute façon, la plupart des études disent qu'effectivement, la plupart du temps, quand les gens éteignent leur télé, c'est pour jouer.
Ou regarder des DVD.
Enfin, alors moi, j'ai vu la télé justement, alors la conférence de presse de TF1 où ils présentaient la grille, l'autre disait fièrement au contraire que les gens n'avaient jamais autant regardé la télé que cette année. Enfin, après, il faut savoir où se trouve la vérité.
C'est une conférence de presse. Une conférence de presse, on dit où on souhaite.
Il faut savoir où se trouve la vérité.
Enfin bon, ça c'est une digression. Enfin, tout ça pour dire, est-ce que justement le casual gaming n'arrive pas quelque part au bon moment pour tous ces joueurs qui ont beaucoup... Les aventures sur lesquelles on passait 60-80 heures, très honnêtement, aujourd'hui, le hardcore gamer, maintenant, il passe moins de temps. Et je pense même pour des gens qui sont passionnés de jeux vidéo, on a moins de temps pour jouer. Et est-ce que le casual gaming n'est pas là quelque part pour des parties très courtes, très...
C'est un style de jeu différent. C'est pour revenir à la musique avant, il y a des choses que tu écoutes quand tu es dans ta bagnole, il y a des choses que tu écoutes quand tu es chez toi, quand tu as envie d'écouter de la musique. Quoi. C'est un mode de consommation différent.
Ouais, caf.
Je pense qu'il y a vraiment deux tendances qui se dessinent. C'est en fait des gens qui sont consommateurs de différents jeux en casual gaming, qui aiment bien effectivement goûter des choses sur Wii, sur DS, etc.
Et les premiers.
Il y a un truc qui cartonne actuellement et qui commence en casual gaming et qui finit en grosse drogue, c'est les MMO. Les MMO oui. Et World of Warcraft.
Exactement.
Parce que World of Warcraft, il y a le pourcentage de filles, de femmes qui n'ont jamais joué à un autre jeu vidéo est énorme, d'hommes aussi, mais c'est encore plus
de gens. Attends, mais de gens en couple, de gens qui qui ont des enfants, de gens qui sont pas
dont des gens qui finalement n'avaient pas d'expérience de jeu vidéo très très forte.
Et ça, c'est hyper impressionnant. Et là, en revanche, on parle de quand tu disais 9h tout à l'heure, c'est sur la soirée. Enfin, tu vois, ça commence en rentrant du boulot et on finit parce qu'il y a un jour il faut dormir.
Freaky, freaky, freaky.
Et voilà.
Freaky Friday.
Exactement, ça fait flipper. Et c'est hallucinant de voir un peu comment le marché évolue. World of Warcraft là-dessus a été une porte d'entrée hallucinante et c'est aussi pour ça que des boîtes comme Sony Online essayent de récupérer le phénomène, balancent des jeux virtuels de trading card un peu comme Magic, tu te rappelles, les petites cartes en papier, ils en mettent un dans EverQuest 2 en se disant si ça a marché dans d'autres jeux, pourquoi pas chez nous. Ils essayent plein de business models, toutes les boîtes sont en train de se battre pour le business model et avec en fond de débat, les gens qui ne sont pas attirés par les Counter-Strike, par les jeux comme ça, et en se disant, si jamais on arrivait à choper ne serait-ce que 1% de ces millions de gens qui ne demandent pas jouer.
200 millions, donc.
Voilà. Mais justement, c'est un truc qui peut atteindre des proportions en termes de durée de
mais pour le coup, World of Warcraft, pour le coup, World of Warcraft, c'est l'antithèse du jeu casual.
Non, mais ce qui est génial, c'est que ça commence comme un jeu casual. C'est ça qui est drôle.
Oui, c'est là où c'est bien foutu. Oui.
Et surtout, voilà, le jeu casual, l'une de ses forces aussi, c'est et on l'a souligné un petit peu, mais c'est vraiment très important, c'est vraiment son côté unisexe. Un BioShock, qui est un extraordinairement bon jeu, enfin, c'est très masculin, ça veut dire que je pense que la proportion de filles qui jouent à BioShock, un Counter-Strike,
ouais, d'un autre côté,
il y a des équipes de filles, mais enfin, c'est pas 50% des joueurs de
effectivement,
de Counter-Strike qui sont des
filles. Mais d'un autre côté, par exemple, pour prendre effectivement l'exemple de BioShock, qui n'est pas du tout un jeu casual, c'est clair, mine de rien, ce qui fait la qualité de BioShock, c'est aussi des choses que tout un chacun peut trouver. C'est-à-dire que il faut pas être forcément un as de la souris, du clavier ou de la manette pour s'en sortir dans ce jeu. Il faut parfois surtout juste être malin, c'est-à-dire voir que là il y a une nappe de pétrole, voir que là machin. Donc faut réfléchir normalement, quoi. Et n'importe qui est capable de le faire.
Alors ça, c'est très très important ce que tu es en train de dire, parce que je crois que ça va être vraiment la tendance qui arrive dans les 6 prochains mois. C'est les jeux typiquement jusqu'à présent un peu hardcore gamer, ou en tout cas très clairement gamer, et là je pense directement à du Super Mario Galaxy, le Zelda, qui finalement sont en train de glisser vers le, je dirais pas du tout le casual, hein, mais sur des techniques, des mécaniques de jeu qui s'ouvrent vers le grand public. C'est-à-dire c'est plus facile à prendre en main qu'avant, on est plus accompagné, les tutoriels sont un peu plus longs, on est vraiment là pour que le nouveau public puisse rentrer dans ces jeux de manière plus agréable qu'avant, on n'est pas devant une porte fermée. C'est-à-dire que on n'oublie pas ce nouveau vivier de gens, de joueurs qui arrivent en ce moment de manière très forte.
Mais c'est même le propos c'est les propos qu'on a pu voir récemment de Miyamoto, c'est-à-dire à savoir le fun d'un jeu, c'est pas forcément sa difficulté. Maintenant, effectivement, le cœur du débat, c'est un petit peu ça, parce que nous, en tant que gros joueurs qui jouons depuis des années, qui avons connu beaucoup de types de jeux différents, etc. On a quand même. Enfin, moi, je sais que ce que j'apprécie quand je rejouais des vieux jeux, c'est quand même la difficulté, quoi. Enfin, je veux dire, c'est plus intéressant de réussir à être plus fort qu'un challenge qu'on te propose et tu retires de la fierté et du plaisir, vraiment du plaisir de jeu à surmonter une difficulté.
Alors, j'aimerais vraiment pas que ce soit pris de manière péjorative pour toutes les filles qui écoutent les podcasts de Gameblog, mais quelque part, ça, c'est une attente.
Les deux, donc.
Une attente très masculine, se dépasser dans un jeu, dans une compétition ou quoi que ce soit. Par exemple, les filles dans un jeu, l'exemple que citait Angel tout à l'heure, c'est Sims, c'est vraiment ça, c'est l'univers bac à sable.
Mais tu prends Brain Training, c'est pas pareil. Brain Training, il y a un score. À la fin, on te dit, ton cerveau, il a tel âge. Et mine de rien, le but du jeu, c'est quand même de descendre cet âge, donc d'avoir un meilleur score, ce qui est quand même la base du jeu vidéo. Et il n'y a pas de raison que les femmes ne soient pas motivées aussi à améliorer leur performance.
La base du jeu vidéo, pour moi, c'est tout simplement d'aller un point A, un point B. C'est tout. Et après, jusqu'au moment où on te dit fin, et c'est tout.
Bah, ça a été l'évolution un peu des jeux vidéo, qui au début de leur histoire, c'était vraiment la quête au high score. Puis, au fur et à mesure, la quête à l'histoire, le scénario, l'aventure, créer quelque chose. Et puis, aujourd'hui, finalement, est-ce qu'on revient pas un petit peu en arrière, mais par simple évolution, pour justement...
Il y a un exemple très simple de tout ça, c'est les succès sur le Xbox Live.
Ouais.
c'est y a une course à ça.
La renommée.
C'est juste voilà, celui qui aura débloqué les succès, qui aura le meilleur gamer score.
Non mais c'est ça. C'est, on est vraiment dans un monde qui a besoin, on a besoin de montrer qui est le plus fort, qui est le meilleur, qui est le plus beau.
Qu'est-ce qui a la plus grosse tub
Pour les filles, elles seront grosses de l'apprendre. Mais justement aussi un des points forts du casual gaming, c'est son image. Une image exceptionnelle. C'est-à-dire que vraiment, c'est autant le jeu vidéo a longtemps été décrié et l'est toujours par plein de personnes, nos amis de famille de France comprendront de quoi je veux dire. Mais par exemple, on a des chiffres, hein, une fois de plus, une nouvelle étude qui montre que 92% des parents qui jouent régulièrement au casual gaming, parents et grands-parents, eh ben, ont trouvé que ça les rapprochait de leurs enfants et de leurs petits-enfants, ce qui est super important.
Bien
et
sûr.
D'où la force de la Wii. La Wii, c'est une console où tout le monde peut comprendre et tout le monde joue ensemble. Et le mot ensemble est très important. 70% de ces personnes, de ces parents, donc d'adultes qui n'avaient pas d'expérience avec le jeu vidéo jusqu'à présent, trouvent que ça a des bénéfices sur l'éducation de leurs enfants. Alors c'est de dire quand même l'importance de cette chose. Mais... Et dernier chiffre très important quand même si ce n'est pas une majorité, 28% de ces personnes, en revanche, ne permettent pas à leurs enfants de jouer à autre chose que des jeux de casual gaming. Alors ça, c'est encore une autre
tendance. C'est un peu des cons, mais...
Un petit peu des cons aussi, ça, on est d'accord. Mais en tout cas, c'est très important de voir à quel point les parents, qui jusqu'à présent, soit donnaient les 60 euros, tiens, vas-y, va t'acheter ton jeu, mais je regarde pas ce que c'est, on retrouve des gamins de 12 ans qui sont en train de jouer à GTA. Qui
non, mais faisons sérieusement les vieux cons, on va faire un tour de table. Ton gamin, tu préfères qu'il regarde la télévision une connerie X ou Y sur TF1
si regarde la totale sur NRJ12
ou qu'il se prenne la tête à savoir comment est-ce qu'il va passer tel oui ou la totale sur NRJ12
tous les mercredis à 15h
ou qu'il se casse la tête à essayer de résoudre un problème sur un jeu vidéo quelconque, une situation, de se sortir d'une situation dans un jeu vidéo quelconque. Moi personnellement, mes gosses que je n'ai pas, donc je préfère largement qu'ils se prennent la tête, qu'ils soient actifs à jouer à un jeu vidéo qu'à mater la télé comme des cons.
Mais il reste à savoir quel jeu vidéo.
Mais ça dépend ce qu'il
y a. Est-ce que tu leur feras jouer à BioShock ou est-ce que tu leur feras jouer à Brain Training ?
À partir du moment donné où ils ont au moins 6 ans et demi, oui.
Non, mais ça dépend ce qu'ils regardent et ça dépend à quoi ils jouent, quoi. Tout est relatif.
Mais toujours pareil. D'où le...
Bah oui.
Et on en revient, mais ça c'est vraiment une digression, c'est vraiment un autre débat, le rôle des parents. Regardez à quoi vos enfants jouent.
Exactement, voilà.
Et effectivement, je pense que c'est très important de voir que pour la première fois, avec le casual gaming, il y a beaucoup de jeux auxquels les parents peuvent comprendre les jeux auxquels jouent leurs enfants. Par exemple, les Pokémon, qui est un véritable carton dans les cours d'école il y a quelques années, puis encore aujourd'hui, hein, puisqu'on voit les ventes astronomiques des dernières versions sur DS. C'est un univers qui est quand même très, très fermé pour les parents. Pokémon étant un jeu très hardcore gamer finalement.
Ah mais grave,
de
c'est pas du tout un jeu casual.
Avec ses codes, avec ses noms, etc. Moi je me rappelle de mes petits cousins quand ils m'en parlaient, même moi qui connais un peu le jeu, je trouvais ça hallucinant. C'est très très pointu. Et mais le casual gaming permet d'ouvrir vraiment la porte.
Et c'est aussi une porte d'accès justement à une génération qui est plus un peu plus âgée que la nôtre, parce que on va dire que les trentenaires grosso modo, on est tous nés avec les jeux vidéo, on sait ce que c'est et bon voilà. Ça serait plutôt les 40 ans, 50 ans. C'est un moyen aussi de comprendre leur gamin, quoi, je veux dire. À partir du moment donné où ton gosse il s'intéresse à des trucs, toi aussi tu es censé t'intéresser un minimum à ce qu'il fait et à savoir ce qu'il fait. Donc commencer à jouer avec des jeux un peu casual, genre des brain training, des machins sur la même console que ton gamin qui lui joue à Pokémon à côté, c'est un moyen de se connecter avec lui.
Ouais. Pour conclure, là on a fait quand même bien le tour du sujet. Il ne faut pas oublier, là on a cité quelques titres, hein. On a parlé des Sims, on a parlé de Brain Training, on a parlé de Nintendogs, peut-être moins dans l'appellation casual gaming, mais il ne faut pas oublier aussi les social games, les Buzz, les SingStar, les Guitar Hero, qui sont finalement assez proches aussi de cette veine-là, qui permettent d'ouvrir vraiment
c'est
le public.
C'est considéré comme du jeu casual.
Voilà, et qui font véritablement un malheur, et franchement, et qui là aussi regroupent à la fois des personnes qui n'avaient jamais joué aux jeux vidéo, mais aussi des super hardcore gamers. Les parties de Guitar Hero, je pense que ça personne ne peut y échapper, c'est vraiment super efficace.
Bah, c'est la course au score, là.
C'est ça.
Revient,
oui, puis, mais je pense que c'est au-delà même de la course au score, c'est la course au style, c'est la course à passer un bon moment avec ses potes. Et si le jeu vidéo, justement, quelque part, un peu grâce au casual gaming, permet à tout le monde, même ceux qui jusqu'à présent en doutaient, de passer un bon moment avec un jeu, c'est quand même un énorme belle avancée pour le jeu vidéo.
Ouais, on a beaucoup parlé de brain training. Il y a quand même un dernier chiffre qui est important, c'est qu'au 25 juillet 2007, donc c'est tout
les
récent.
Les gens sont devenus plus intelligents.
Non, pas du tout. Il y a toujours autant de comptes sur Terre, mais Brain Age et Brain Training ont vendu dans le monde 8,61 millions d'exemplaires. Ouais. Et ces gens-là, qui ont acheté Brain Training, ils ont acheté une DS aussi. Mmh. Et donc, il faut bien qu'au bout d'un moment donné, ils achètent d'autres jeux. Mmh. Et donc, c'est pour ça que moi, je pense que c'est positif, c'est qu'au bout d'un moment donné, ils s'ouvriront forcément à d'autres choses. Ils iront voir au-delà du Brain Training. Sinon, c'est con d'acheter une DS et Brain Training et puis de plus jamais la sortir.
C'est la vision optimiste, hein, quand même.
Ouais, ouais. Ouais.
Julot, t'as pas beaucoup entendu, mais effectivement, ouais, non, toi, mais tu partages plus le dark side.
Attention, est-ce que Julot penserait du mal pour la première fois de sa vie? Est-ce que son karma va en prendre un
coup? Attention, je... Deux secondes de suspense. On peut mettre une petite musique, voilà.
Julo,
réponse de Julo.
Non, mais c'est pas ça. C'est que tu dis après Brain Training, ils vont jouer à un vrai jeu. Non, après
non, pas forcément tout de suite.
Ils peuvent très bien jouer à Nintendogs ou à un autre jeu casual parce qu'il y en aura énormément à disposition. Mais... Il n'est pas exclu qu'en fait, ils surfent d'un jeu casual à un autre jeu casual plutôt que d'aller d'un jeu casual à un jeu hardcore, quoi.
Mais ouais, déjà, y a deux trucs. Alors, dire casual et vrai jeu, déjà, enfin, je trouve ça insultant. Le casual, c'est pas un faux jeu. Et deuxième point.
Excuse-moi, mais par exemple, Brain Training, parce qu'on parle de lui depuis tout à l'heure, est-ce que c'est un jeu?
Bien sûr, à partir du moment où tu t'amuses, c'est un jeu.
Tu lui prends du plaisir ou pas? Moi, je kiffe.
Je l'ai acheté. Hein.
Deuxième point.
J'ai trippé pendant quelques temps, mais c'est vite passé.
J'ai un deuxième point qui est très important, parce que depuis le début de l'émission, on fait pas de différence. C'est-à-dire, c'est soit casual, soit hardcore gamer. Je disais, enfin, le jeu.
Tu réécouteras le podcast.
Le jeu hardcore, vraiment hardcore pur et dur, tu vois, c'est les trucs genre shoot them up et compagnie, où là, tu trouves. Où là, les mecs sont bourrins.
Mais ça a évolué depuis 1982.
Non, mais donc voilà, dire que y a. Alors, les jeux sont soit casual, soit hardcore.
Tu réécouteras vers 12 minutes, on dit core et hardcore. On te dira qu'il y a 3 catégories, tu réécouteras. C'est la magie du podcast.
Là, pour reparler encore d'un titre dont on a déjà parlé plusieurs fois, est-ce que le mec qui joue à Brain Training, il va passer à BioShock, par exemple? Je pense pas, quoi.
Mais le mec qui
joue à Brain Training ou la nana qui joue à Brain Training, qui joue pour la première fois de sa vie, etc., il va passer à un autre jeu casual, il ira jamais à BioShock.
Mais la transition peut se faire de manière lente, quoi. Tu passes pas des bronzés à Godard, quoi.
Et puis franchement, très honnêtement, est-ce que la question est vraiment là? Moi, je suis pas sûr. Quelque part, si
c'est la question qu'on se pose aujourd'hui,
le public coexiste désormais avec ce qu'on appelle les jeux vidéo au sens large. Très bien.
Ok, disons, ok. Je vais essayer de mettre tout le monde d'accord.
Espérons juste que le casual gaming soit un beau plus.
Voilà,
plutôt que se substituer.
Le principal problème du jeu vidéo finalement aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas forcément considéré comme un objet culturel à part entière et qu'il ne fait pas partie encore à 100% de la pop culture comme le cinéma, la musique, etc.
Et là, tu vas pas me dire que le casual gaming va aider.
Le casual gaming est une porte d'entrée parce que les gens qui jouent, qui ont une Wii ou une DS et qui jouent à des jeux casual et qui ne joueront jamais à BioShock savent au moins ce que c'est qu'une console de jeux vidéo et savent au moins ce que c'est que le jeu vidéo. Mmh. Et c'est à mesure que ces gens-là viendront petit à petit à se dire que bah, finalement les jeux vidéo c'est aussi autre chose, c'est pas forcément toujours shooter des gens, c'est pas forcément toujours un truc négatif, ça peut être bien pour mes gamins, ça peut être bien machin, etc. C'est grâce à ça que petit à petit le jeu vidéo se démocratisera et sera considéré à sa juste valeur.
Non, je t'aime quand tu parles comme ça.
Non, mais c'est vrai, il a complètement raison. Il y a encore 2 ans, à chaque fois qu'on entendait parler des jeux vidéo dans les médias, on va dire généralistes, c'était scandale sur GTA, c'était on tue des gens dans Counter-Strike. Et aujourd'hui, on voit des grands-mères avec leurs gamins, etc., en train de jouer au coin du feu et tout le monde s'extasie.
Je suis super d'accord avec Nicole, on est tous d'accord avec le Belge.
Fait des pubs et ça, c'est priceless. Et pourtant, je déteste ce jeu, mais Nicole. Tu passes quand tu veux.
Clairement. Non, mais c'est vrai. Attends, pour une fois qu'on dit pas de mal du jeu vidéo, il faut saluer tout ça. Et puis voilà. Quoi.
Voilà. En tout cas, c'était vraiment notre point sur le casual gaming. Vous avez vu, hein, même au sein de la rédaction de Gameblog, on n'est pas tous d'accord. Et je pense que c'est très difficile.
On est tous d'accord.
Sauf Julo.
Pour une fois.
Non, il y a CAF qui me soutient, non? C'est ça? Oui. Attends.
Ah donc, je suis avec toi, Julo.
Non, voilà. En tout cas, le débat est vraiment lancé. On compte sur vous pour rebondir dessus dans nos forums sur Gameblog.fr. Il y a encore énormément de choses à dire. Et je pense que l'histoire du casual gaming, bah, finalement, c'est rien par rapport à l'histoire du jeu vidéo. On en est vraiment qu'à sa genèse. Donc, ouvrons-nous, et c'est pas plus mal, faisons jouer nos parents, nos grands-parents et tout le monde. Voilà, ce sera franchement super bien. Et puis, plus de filles dans le jeu vidéo, ça fait plaisir. Voilà. Alors, on vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau podcast avec plein de nouvelles thématiques qui font plaisir et de nouveaux débats. On vous fait des bisous, on vous dit au revoir. Ciao,
bisous, bye bye.
Salut, bisous.